écoutez Alger Chaîne 3, le journal.
Nous sommes le mardi 3 mars et on suit de près l'actualité, les dernières news, c'est dans le journal, tout de suite avec Naliman Mendel. Naliman, bonsoir.
Bonsoir Hakim, madame, monsieur, bonsoir à la une de l'actualité de ce mardi 3 mars. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé une réunion du Haut Conseil de sécurité. L'Algérie renforce sa résilience cybernétique. La stratégie nationale de défense des systèmes d'information dévoilée aujourd'hui. Un groupe d'ingénieurs nigériens est arrivé à Alger pour une formation dans la maintenance des installations électriques. La formation de 3 semaines sera dispensée par l'école de Sonelgaz. En Iran, les bombardements se poursuivent dans tout le Moyen-Orient même. La région s'embrase. Plus de 135 villes iraniennes sont bombardées. Le siège qui abritait la réunion de hauts responsables iraniens pour élire un nouveau guide suprême ciblé. L'entité sioniste annonce le début d'une opération terrestre dans le sud Liban. 13e jour du mois sacré de Ramadan, l'occasion de renouer avec les traditions et le patrimoine. Nos artisanes les mettent en avant à la Villa Boulkina Alger. Un sport football début ce soir, des quarts de finale de la Coupe d'Algérie. 2 matchs sont au programme. Dans le choc, le CRB Louis Dade reçoit le MC Alger. Le petit poussé, la JSM Béjaïa, affrontera le CS Constantine. Bonsoir à toutes et à tous. Nous vous le disions en titre, le président de la République, chef suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale a présidé aujourd'hui une réunion du Haut Conseil de sécurité. La sécurité justement des systèmes d'information, un enjeu majeur. L'Algérie élabore sa stratégie nationale 2025-2029. Elle a été présentée aujourd'hui par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information relevant du ministère de la Défense nationale. Il s'agit d'un plan pour faire face à toute menace cybernétique. Samuel.
Le lancement de la stratégie nationale de sécurité des systèmes d'information pour la période 2025-2029 marque une étape majeure dans le renforcement de la souveraineté numérique du pays. Cette stratégie vient de doter l'Algérie d'une vision claire et structurée pour garantir sa résilience cybernétique, avec comme objectif de protéger les systèmes d'information nationaux. Général Abdeslam Belroul, directeur général de l'Agence de la sécurité des systèmes d'information.
Afin d'assurer une mise en œuvre efficace de la stratégie, nous avons adopter un mécanisme de suivi et d'évaluation à travers l'organisation de séances de travail périodiques ainsi que l'élaboration de rapports relatifs au niveau d'exécution des objectifs fixés. Nous soulignons que la concrétisation et l'application des mesures prévues dans cette stratégie constituent un défi majeur susceptible de garantir le renforcement de la sécurité des systèmes d'information nationaux ainsi que des infrastructures numériques. Après l'approbation de cette stratégie, l'agence s'emploiera à élaborer un plan d'action en collaboration avec l'ensemble des parties prenantes afin d'en assurer l'exécution dans les délais impartis et avec l'efficacité requise.
Au-delà de la dimension sécuritaire, cette stratégie traduit une volonté politique de préserver la souveraineté numérique et de renforcer la confiance des citoyens dans l'environnement digital. Elle vise également à garantir aux citoyens une plus grande sérénité dans l'usage des services publics numérisés et des multiples prestations administratives accessibles en ligne, en assurant la protection de leurs données et la fiabilité des plateformes numériques de l'État.
Alger soutient Niamey dans le développement de son secteur de l'énergie. Des ingénieurs nigériens sont arrivés aujourd'hui à Alger pour une formation au niveau de l'école de relevant de la Sonelgaz d'une durée de 3 semaines. Elle leur permettra d'assurer le bon fonctionnement de leurs installations électriques. On écoute à ce propos Mohamed Abondong, chef de division prospective à la société nigérienne d'électricité. Ses propos sont recueillis par Nesrine Dahmoud.
Nous sommes là pour une formation dans le cadre de la maintenance et de l'exploitation de ces turbines. Des turbines d'une puissance cumulée de 20 MW. Donc il s'agit des turbines à gaz mobile. Elles vont venir renforcer le parc de production nationale. Donc à travers ce partenariat, c'est une confirmation de la volonté du peuple nigérien et de son président donc de choisir souverainement ses partenaires. Et donc le choix de l'Algérie, c'est un choix stratégique. Nous sommes très heureux de nous retrouver aujourd'hui en Algérie.
Et justement, le secteur de l'énergie fortement impacté par la situation au Moyen-Orient, les prix du gaz flambent, ceux du pétrole frôlent, le baril de Brent frôle les 83 $. Rappelons que l'Iran a mis en garde aujourd'hui les pays européens après que l'Allemagne et la France et le Royaume-Uni se sont dit prêts à des actions défensives pour détruire les capacités militaires iraniennes. Elle a mis en garde contre l'utilisation du détroit d'Ormuz, ce qui risque de perturber davantage les marchés énergétiques. Et au quatrième jour des bombardements sur l'Iran, la région s'embrase entre attaques américano-sionistes sur l'Iran et représailles iraniennes sur des intérêts américains dans le Moyen-Orient. Plusieurs villes sont touchées par ces bombardements. Les différentes parties multiplient les déclarations. L'entité sioniste a annoncé le début d'une incursion terrestre au Liban. La situation évolue vite, Liestrani.
Absolument, l'escalade militaire ne faiblit pas. En Iran, le Croissant Rouge annonce un lourd bilan, près de 800 morts depuis samedi, plus de 1500 attaques recensées et environ 150 villes touchées à travers le pays. Parmi les cibles évoquées par des médias iraniens, l'aéroport de Mehrabad à Téhéran, qui assure principalement des vols domestiques, ainsi que le bâtiment abritant l'institution chargée d'élire un nouveau guide suprême après l'annonce de la mort de l'Ayatollah Ali Khamenei. L'armée sioniste a mené des frappes simultanées à Téhéran, mais aussi à Beyrouth, ciblant des objectifs militaires iraniens ainsi que le Hezbollah libanais. Netanyahou a renforcé son dispositif militaire dans le sud du Liban, annonçant la création d'une zone tampon près de la frontière alors que l'armée libanaise s'est retirée face à l'escalade. En réponse, le Hezbollah a revendiqué une nouvelle attaque contre une base militaire dans le nord du territoire palestinien occupé. La quatrième en l'espace d'une journée. Téhéran affirme elle aussi avoir lancé des attaques contre l'entité sioniste ainsi que contre une base militaire américaine au Qatar. L'ambassade américaine en Arabie Saoudite a été frappée par des drones et des explosions ont retenti à Dubaï. Les appels internationaux à la désescalade se multiplient, mais sur le terrain, la logique militaire semble pour l'heure l'emporter sur la diplomatie.
Et alors que le conflit régional prend une ampleur inédite, une incursion terrestre sioniste au Liban marque un nouveau seuil dans l'escalade militaire avec le Hezbollah notamment. L'ère de la patience est terminée, a déclaré le mouvement chiite, laissant présager une confrontation directe d'envergure. Cette montée des tensions fait craindre un embrasement généralisé du Liban avec des répercussions majeures sur l'équilibre sécuritaire et diplomatique au Moyen-Orient. On écoute à ce propos Faiza Mokaddam, vice-présidente de l'Union internationale des avocats. Elle est contactée par l'Estrini.
En ce moment, le Liban est en train de vivre une confrontation qui n'est pas de son choix, puisque le gouvernement libanais a établi un cessez-le-feu de novembre 2024 et après les frappes israélo-américaines sur l'Iran et la mort de Ali Khamenei, le guide iranien. Le ministre de la Défense israélien a autorisé l'armée à avancer et à saisir les zones du contrôle et le Liban, il est vraiment coincé parce que on a des menaces de Netanyahou concernant les opérations limitées tout le long de la frontière sud, pas une invasion totale du Liban. Nous suivons la situation avec prudence et préparons un plan de déplacement si les évacuations s'étendent.
À 18h09, retour chez nous. Après Tebessa et Sougharas, le ministre des Travaux publics poursuit sa visite dans les wilayas de passage de la ligne minière de l'Est. Il est aujourd'hui à Galma. Lors de cette halte, le ministre a insisté sur l'importance de livrer le chantier dans les délais. On écoute le Abdelkader Djellaoui. Il est au micro de notre correspondant à Galma, Loutfissit.
Que ce soit les moyens humains ou les moyens matériels. 127 engins. Tu as de la zone 198 pelles. Sans compter les camions. 100 camions, ils sont, c'est un site bas. 8 ateliers, voilà. On fasse Zido atelier pour renforcer. C'est des périodes, là, des intempéries, n'axo. Surtout pour les terrassements, il faut mettre le paquet. Ou peut-être, de 30% à l'aise. Les instructions de Monsieur le Président sont fermes. On doit maximum les 72 kilomètres les terminer à la fin de l'année. Reste uniquement les chemins critiques au niveau des 49 km au niveau de Soukharas. Là, on a trouvé les solutions nécessaires.
13e jour du mois sacré de Ramadan, un mois où malheureusement on enregistre un gaspillage important. Les agents de nettoyage le constatent au quotidien. Du pain, des desserts, parfois des plats entiers qui finissent dans les poubelles. Atlemcen, le chef-lieu de la wilaya, produit en seulement quelques jours l'équivalent de toute la wilaya les autres mois de l'année. Correspondance de Amina Bdjaoui.
Ramadan, le mois de générosité mais aussi de gaspillage, les chiffres parlent d'eux-mêmes. La direction de l'environnement de la wilaya de Tlemcen a collecté 743 tonnes de déchets. C'est presque l'équivalent de ce que la wilaya produit en une seule journée normale. Derrière ce chiffre, une infrastructure qui tourne à plein régime, 36 communes couvertes par des conventions de traitement, 3 centres d'enfouissement technique, 6 décharges contrôlées, mais aussi une réalité qui résiste, 36 décharges sauvages recensées sur le territoire. Le wali de Tlemcen appelle une mobilisation renforcée pour en finir progressivement avec ce fléau. Car si Ramadan nous invite à la sobriété à table, les poubelles, elles, ne jeûnent pas. De Tlemcen, Amina Bidjaoui pour Al-Jaychen 3.
Ramadan, c'est aussi un mois où on renoue avec les traditions et le patrimoine, un patrimoine qui est mis en avant par nos artisanes qui exposent à partir d'aujourd'hui leur savoir-faire à la Villa Boulkine à Alger, en présence du corps diplomatique accrédité en Algérie. Hanan Seissi a visité l'exposition.
Dans les compartiments animés de l'exposition de la production féminine de la famille productrice, la créativité n'est pas qu'une passion. Elle est un moteur économique, nous révèle Nabila Houem, spécialisée dans la transformation de la cire en bougie de décoration. Narges Kandel.
Nous avons 35 références dans la gamme. Nous sommes 5 personnes en atelier de façon durable et quelques recrutements de façon ponctuelle selon les saisons. Notre activité a débuté en 2012. Et aujourd'hui, nous sommes présents sur le territoire national et aussi de façon occasionnelle à l'étranger.
La création, un levier d'autonomie, nous confie Sabah Boudjlel, chef de micro-entreprise Houda Vitrail.
J'ai fait des formations dans la mosaïque, dans des ceintures vertes. On a des cache-pots en mosaïque, des miroirs en mosaïque, des ceintures vertes. On a des services à thé, des bonbonnières.
Chaque pièce façonnée à la main, de fil en aiguille, la jeune Farah Merad revisite l'art de la joaillerie à sa manière.
Le bijou fantasy devient très tendance.
Comment vous faites pour créer ?
Je vous mens pas, je dépose tout sur mon lit et je commence la confection sur des coups de foudre.
Ça vous permet de vivre ?
Tant que c'est une passion, oui. Et surtout avec les expositions et tout, alhamdoulilah, ça marche.
Cette exposition de 2 jours est une opportunité pour mettre en lumière plus que des produits, un savoir-faire exceptionnel qui s'inscrit dans le développement durable économique et social du pays.
Et cette page mémoire, jeter la révolution dans la rue, le peuple s'en emparera. Une phrase gravée dans la mémoire collective prononcée par un héros qui a marqué l'histoire, l'Arbi Ben Mehdi. Il y a 69 ans, la nuit du 3 au 4 mars 1957, ses tortionnaires l'avaient assassiné dans sa cellule et déguisé ce crime en suicide pour l'annoncer à l'opinion publique. Un hommage lui est rendu aujourd'hui à Oum El Bouaqi, Nasser Benissa.
La wilaya de Moulbogi a vécu aujourd'hui la commémoration du 69e anniversaire de l'assassinat du Shahid Al-Abi Ben Mehdi, membre du groupe historique des 22 et l'un des héros de la guerre de libération nationale. À l'université qui porte le nom du Shahid, le discours du ministre des Moujahidines et des ayants droit, Abdelmelk Tesslift, à l'occasion, a été lu par son représentant, Melhaddad Karim.
L'évocation de cette personnalité historique exceptionnelle exige de notre part une pleine compréhension des détails de son combat et nous conduit à nous incliner devant son sens du sacrifice et son dévouement.
Le représentant du ministre a ensuite annoncé l'ouverture officielle de la conférence historique nationale annuelle sur le Shahid Al-Abi Ben Mehdi sous le signe entre l'identité nationale et le parcours de libération. En milieu de matinée, la délégation a visité le musée du Moujahid. En début d'après-midi, la délégation s'est rendue à Ilm Lila, Douar Kouahi, où se trouve le monument historique, la maison du Shahid de Moulbouagi, Nasser Ben Sam pour Al-Jaychen 3.
L'Arbi Ben Mehdi a marqué l'histoire de la lutte algérienne pour le recouvrement de l'indépendance de tout le territoire national, rappelle Ammar Belkhoudia, historien. Il est contacté par Khadija Arzel.
Nous évoquons un grand homme, un grand dirigeant, un grand nationaliste qui douait d'un esprit d'organisation. Après le démantèlement de l'organisation spéciale dont il était membre en 1950, on va le retrouver dans l'Oranie, militer dans la clandestinité la plus absolue. Et lorsque la guerre va éclater, lorsque on va décider du déclenchement de la guerre, nous allons retrouver Mohamed Larbi Mehdi à la tête de la zone 5. Et ça ne va pas durer puisque Abraham, encore un grand homme, va l'appeler à ses côtés pour organiser, consolider un peu tous les dispositifs concernant le FLN. Et on va le retrouver en 1955 à Alger aux côtés de Abraham. Ce qu'il faut retenir, c'est que Mohamed Larbi Mehdi restera pour notre pays un grand symbole de sacrifice, d'un sentiment très élevé de patriotisme.
Culture à présent, l'Algérie va abriter en juillet prochain le premier festival universitaire du théâtre africain. Les préparatifs sont lancés aujourd'hui. Les inscriptions sont ouvertes pour ceux qui souhaitent y participer. Salim Brahimi.
Le premier festival universitaire du théâtre africain d'Algérie est né, annoncé par Kamel Baddari, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il tend à conforter la place du quatrième art comme vecteur du soft power au bénéfice de l'Algérie. L'organisation de ce festival reflète la concrétisation des engagements du président de la République Abdelmadjid Tebboune, qui a souhaité à travers cette vision de développement de l'Algérie de 2024-2029 que l'Afrique ait sa puissance stratégique à travers le soft power en intensifiant les échanges entre différentes universités africaines et la formation des étudiants africains dans les universités algériennes de manière à ce que le soft power génère des ambassadeurs de l'Algérie dans ces différents pays. En plus du spot du festival réalisé par des étudiants algériens, les modalités de participation ainsi que les adresses d'inscription ont été présentées par Serawi Hajar, coordinatrice artistique du festival.
Les participants doivent être des étudiants universitaires. La durée de la pièce théâtrale doit être entre 45 et 60 minutes. Pour tous les participants, je vous invite, Inch'Allah, pour passer Inch'Allah, une très belle expérience ici en Algérie. Inch'Allah, all the success for all the students and vive Algérie, vive Africa.
Ainsi, vous êtes étudiant africain, vous avez une pièce théâtrale à inscrire au festival, une seule adresse, le site officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Sport à présent, football début ce soir des quarts de finale de la Coupe d'Algérie avec deux matchs au programme, dont un choc au Nelson Mandela, Reda Benghoudil.
Chabab de Belouizdad Mouloudia d'Alger. Le derby algérois domine ce premier quart de finale ce soir au Nelson Mandela Stadium à 22h. Les rouges et blancs voudront reconquérir le trophée perdu en finale l'année dernière face à l'USMA, après avoir éliminé en 16e de finale le Mouloudia. De leur côté, les verts et rouges éliminés de la compétition africaine ne gardent comme objectif que les deux titres nationaux, le championnat et la coupe. La deuxième rencontre de ce soir opposera le Chabab de Constantine au petit poussé de la compétition, la JSM Béjaïa. Les Constantinois veulent continuer sur la dynamique de bons résultats pour se qualifier sans diminuer de la valeur de leur adversaire. On écoute Brahim Dib, le capitaine du CSC, contacté par Mourad Aissani.
On est sur une bonne dynamique. Le groupe est en confiance et on aborde cette rencontre avec l'objectif de décrocher une place en demi-finale. Certes, la JSMB évolue en troisième division, mais cela ne veut pas dire que la rencontre sera facile pour nous. En tout cas, le groupe est prêt. On a bien travaillé et on fera tout pour décrocher une place en demi-finale.
La JSM Béjaïa, pensionnaire de la division interrégion, aspire à jouer crânement ses chances, bien que le principal objectif du club reste l'accession en Ligue 2. À ce sujet, on écoute son joueur Redouane Chérifi, contacté par Islam Tazib.
On s'est très bien préparé pour cette rencontre et ce, sur tous les plans. Certes, notre principal objectif cette saison reste l'accession en Ligue 2, mais cela ne veut pas dire qu'on ne jouera pas nos chances à fond dans cette compétition. La JSMB a une histoire très particulière avec la Coupe d'Algérie. D'ailleurs, le club a remporté cette compétition en 2009. Les supporters aussi aiment cette compétition, donc on fera tout pour aller chercher une victoire face à Constantine.
Je rappelle que les deux rencontres CSC JSM Béjaïa et CRB Mouloudia d'Alger seront retransmises en direct sur nos ondes à partir de 22h.
Voilà donc rendez-vous pris et c'est avec ces infos sport qu'on arrive à la fin de cette édition réalisée par Sidali Toubal et Ali Laouissi. Kerimo était à la technique, Ikram à la régie d'antenne et Yacine au streaming vidéo. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, c'est la météo avec Hakim Bey. Bonne suite des programmes sur Al Jazeera 3 et Sahaf Tourcom.